ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent, ce sera tout à fait comme la radio.
Bonsoir, bonsoir, Radio Pleine Lune 93.8 MHz sur Onde Femme Radio Zone. Dans quelques instants, nos nouvelles suivies du Memento et ce soir un grand programme musical Women in Rock, Radio Pleine Lune 93.8 MHz. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, le 50 40 51 41 023, depuis Genève. Je vous rappelle aussi notre adresse, Onde Femme sur Radio Zone, 7 boulevard Karl Vogt, 1205 Genève. Je répète, 7 boulevard Karl Vogt, 1205 Genève. C'est bientôt Noël, l'hiver s'installe. À Noël, on fait des cadeaux, alors n'oubliez pas que vous pouvez aussi nous faire un cadeau, pourquoi pas, en achetant une carte d'auditeur ou d'auditrice. Eh bien, c'est très facile, vous nous téléphonez au 50 40 51 41 023 depuis Genève, 033 depuis Bâle, campagne, ou vous nous écrivez à Onde Femme Radio Zone. Eh bien, restez à l'écoute, dans quelques instants, nos nouvelles.
Wakatia, bana bati kochema, bati koche delera chiko kochie. Wakatia, bana bati kochema, bati koche delera chiko kochie.
Radio Pleine Lune, Onde Femme, Radio Zone 93.8 MHz, nos nouvelles. À Genève, les élections au Conseil, au Grand Conseil, ont montré une très nette polarisation droite-gauche, puisque les deux formations les plus nombreuses se retrouvent être les libéraux, qui ont grandi en ratissant les voix de l'extrême droite, et l'Alliance de gauche, qui réunit à la fois les anciens du PDT, certains anciens socialistes, et puis tout ce que l'extrême gauche, une grande partie de l'extrême gauche, tout ce qui bouge à Genève, qui ont gagné 21 sièges. Mais ce qui est aussi très décisif et très marquant dans ces élections, c'est la montée des femmes. En tout cas, un certain type de montée. L'année de l'entrée de Ruth Dreyfus au Conseil fédéral, l'effet Brunner, comme on l'a appelé, ont poussé les femmes sur l'avant-scène à Genève aussi. Bien sûr, ce n'est pas une révolution, mais dans le prochain Grand Conseil, 36 femmes députées siégeront à l'Hôtel de Ville. Elles sont d'ailleurs relativement bien placées dans les listes, ce qui est nouveau, arrivant presque toujours dans le peloton de tête. Par exemple, chez les libéraux, nous avons Martine Brüsching-Graf qui arrive en deuxième position, Erika Deuber parti en deuxième position également pour l'Alliance de gauche, et Micheline Calmiret en tête pour les socialistes. Mais cependant, si elles sont mieux placées, elles ne sont pas beaucoup plus nombreuses que lors de la législature qui vient de se terminer. Elles étaient 33 en 1988, elles seront, on espère, 36 aujourd'hui. Le Parti socialiste est certainement le plus féminisé et peut-être même, on peut dire, le plus féministe avec 9 femmes sur 15. D'ailleurs, la campagne électorale a été faite en tout cas en appuyant beaucoup sur les femmes du Parti Socialiste, suivi par le Parti écologiste genevoise, Genevois avec 4 femmes sur 8, de l'Alliance, ensuite l'Alliance de gauche avec 9 femmes sur 21, finalement les libéraux qui sont 11 sur 27, les démocrates chrétiens avec 1 femme sur 14 et les radicaux avec 2 femmes sur 15 font figure de rétrograde. Bizarrement, alors qu'elle compte depuis belle lurette le Parlement le plus ouvert aux femmes, Genève n'a cependant jamais eu de ministre féminin. Cette anomalie va disparaître, on l'imagine, on l'espère, à coup sûr. Dimanche, 3 candidates ont cassé la baraque, chacune sur sa liste. Il s'agit donc de Martine Brunschwig-Graf, libérale, Micheline Calmiret, socialiste, Erika Deber-Poli, du Parti du Travail, qui se présentait sur la liste de l'Alliance de gauche. Elles sont donc bien placées en vue de l'élection au Conseil d'État. Il serait étonnant, cependant, de les retrouver toutes trois élues, bien que pourquoi pas. Mais à force de ne regarder l'échiquier politique qu'à travers la rivalité gauche-droite, on pourrait sous-estimer une autre lecture de la politique. Car à force d'entendre à longueur de législature que les conseillers d'État n'arrivent pas à gouverner Genève, les électeurs pourraient être tentés d'essayer avec des conseillères. Sans oublier que parmi les 200 000 citoyens, les femmes, avec presque 30 000 électrices de plus, sont largement majoritaire et pour une fois, on pourrait enfin discuter, non pas seulement en termes de « nous voulons une femme au gouvernement », mais nous voulons en plus une femme de gauche féministe. On aurait le choix. D'ailleurs, à ce propos, petit cochon à la tribune d'aujourd'hui, qui dans son rubrique politique et toc se demande où sont les hommes. Et puisque, semble-t-il, en tout cas au Parti Socialiste, il y a eu plus de femmes que d'hommes élus, il se pose le problème de protéger cette malheureuse minorité que sont les hommes et d'introduire des quotas masculins. Toujours en Suisse, Christiane Brunner renonce à présider l'Union suisse des syndicats, l'USS. Christiane Brunner, qui préside aujourd'hui le syndicat de la FTMH, Fédération des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie, tout en assumant son mandat de conseillère nationale, vient d'annoncer qu'elle renonce à briguer la succession à l'Union syndicale suisse, où elle aurait été appelée tout naturellement en 1994 à succéder à l'actuel président. C'est le fruit, dit-elle, d'une décision mûrement réfléchie, car les structures étant ce qu'elles sont, il me fallait cumuler les deux présidences, impossible en effet de renoncer à celle de la FTMH pour n'assumer que celle de l'Union syndicale. La conseillère nationale genevoise juge que cette accumulation de mandats est inacceptable parce qu'il est impossible de faire du bon travail. En tant que femme, dit-elle, j'ai décidé d'en faire la démonstration. La présidence de la FTMH est de toute manière un emploi à plein temps et le mandat de conseillère nationale exercé avec sérieux dépasse de loin la durée des sessions et des séances de commission. Non, je ne tiens pas à exercer une fonction alibi, même si je suis la candidate idéale en tant que romande, femme, syndicaliste et députée, je ne tiens pas non plus à travailler à 300%. Annoncer clairement la couleur maintenant est de l'avis de Christiane Brunner, l'occasion de fournir à l'USS une occasion de repenser ses structures ou de préparer le terrain pour une autre candidature féminine qui existe d'ailleurs dans les syndicats, il ne manque pas de femmes. Thank you. toujours eu en Suisse une trousse d'examens mise au point pour détecter les auteurs de viols. Grâce entre autres à l'analyse génétique, il sera possible de prouver si l'acte sexuel a eu lieu et avec qui. Possible dans toute la Suisse dès l'an prochain. Pour aider la police et le corps médical à établir la vérité, l'Institut de médecine légale de Berne a donc mis au point une trousse d'examens pour délits sexuels. La trousse s'inspire d'un nécessaire américain qui s'appelle le Sexual Delict 7. En cas de viol, il est aujourd'hui possible, entre autres grâce à l'analyse génétique de l'ADN, de prouver si l'acte sexuel a eu lieu et avec qui. Il est plus difficile en revanche d'établir dans quelles conditions. Les plus petits indices alors permettent d'établir si la femme a été violée sans son consentement, ou en tout cas avec violence. Pour établir s'il y a eu contrainte, l'Institut à Berne a dressé dans son nécessaire la liste des indices à récolter. Une petite égratignure peut indiquer par exemple qu'une boucle d'oreille a été écrasée contre la peau au cours d'une bagarre. Les écorchures au niveau des fesses témoignent aussi d'un acte violent. Elles ont pu être occasionnées quand l'agresseur a arraché les sous-vêtements de la victime. L'examen des vaisseaux sanguins de l'œil permet de détecter s'il y a eu tentative d'étranglement. Bien sûr, cette trousse ne permet que de mesurer la contrainte physique, la contrainte par exemple avec une arme ou par la peur, elle est plus invisible, laisse moins de traces visibles en tout cas. Le nécessaire comprend outre un mode d'emploi, tous les instruments utiles à relever les traces, à procéder à l'examen médical. On y trouve notamment des tampons d'ouate pour effectuer des prélèvements, des sachets pour recueillir les cheveux, trouver sur la victime d'autres indices ainsi que des éprouvettes pour faire le test du sida. Notre but est d'éviter que l'examen se résume à un frottis vaginal au mépris de toutes les traces de violence visibles sur le corps, a expliqué le responsable. Toujours en Suisse, la grossesse ne donne pas droit à des indemnités particulières quand on travaille. Le tribunal fédéral a refusé d'indemniser intégralement une salariée qui avait cumulé pendant plus de 3 mois des absences pour cause de grossesse et de maladie. Lorsqu'une salariée est empêchée de travailler, sans faute de sa part, l'employeur lui verse son salaire pour un temps limité, dit le code des obligations. Il s'agit la plupart du temps de 3 mois. Peu importe que l'absence soit due à une maladie ou à une grossesse. La première cour civile a ainsi refusé d'indemniser intégralement une jeune employée qui avait pendant la même année cumulé des absences pour cause de grossesse et d'ennui de santé, dépassant ainsi les 3 mois stipulés dans le contrat de travail. La grossesse ne donne donc pas droit à des indemnités particulières. L'employeur avait donc refusé de la payer en expliquant que le contrat d'engagement limitait l'obligation de payer le salaire à 3 mois d'absence par année. Les 10 semaines de congé maternité sont prévues dans ce forfait, avait-il ajouté. Vous voyez que ça ne fait pas beaucoup pour se sentir mal pendant la grossesse. Saisi d'un recours, le tribunal fédéral a rejeté la demande de l'employé. Il a relevé que le code des obligations ne fait aucune distinction entre les différentes causes susceptibles de justifier le versement du salaire pendant l'absence. Évoquant un jugement contraire rendu à Genève par la Chambre d'appel en novembre 91, le tribunal fédéral précise que rien ne saurait à ses yeux justifier une interprétation différente de la loi, ni des considérations touchant l'égalité entre hommes et femmes, ni la nécessité de pallier l'absence d'une véritable assurance maternité. Seul le législateur peut remédier à la solution actuelle, conclut le tribunal fédéral. C'est donc le moment de tout faire pour qu'existe réellement une vraie assurance maternité qui soit effectivement différente qu'une assurance maladie. Le directeur des PTT se retrouve au banc des accusés pour complicité de pornographie. C'est à cause du téléphone rose, le 156. C'est pour cela que Félix Rosenberg va comparaître au tribunal correctionnel de Lausanne sous l'accusation donc de pornographie, un procès autour du téléphone rose 156. Le directeur général des PTT sera donc au banc des accusés. Il est prévenu de pornographie, subsidiairement de publication obscène ou de complicité de ces infractions. Le procureur du canton de Vaud accuse en effet son entreprise d'avoir favorisé la diffusion de messages érotiques par le biais du 156, sans mettre en place le moindre contrôle et sans veiller à ce que les mineurs n'y aient accès. Jeudi, pour la première fois, la question de la responsabilité des PTT sera donc posée devant un tribunal. Félix Rosenberg plaidera sans doute non coupable. Les PTT ont toujours répété qu'ils n'étaient pas responsables de la teneur des messages qu'ils transportaient. Ils soulignent que la loi sur les télécommunications et ses ordonnances d'exécution ne disent rien sur la question des contenus du message. L'enjeu est important car des fortes sommes pourraient leur être confisquées. Les PTT prélèvent un quart du prix payé par le client, soit 50 centimes sur un montant de 2 francs la minute. En 1991, le 156 enregistrait 4 millions d'appels par mois, soit un peu plus qu'aujourd'hui. Une affaire qui aurait rapporté mensuellement 35 millions de francs au PTT. Les médias suivront également de près l'issue du procès. Les annonces 156 leur procurent d'importants revenus par le biais des espaces publicitaires qu'elles occupent. Annuellement, la Tribune de Genève encaisse ainsi près d'un million de francs en chiffre brut. Quant au Matin, qui en publie beaucoup plus, il enregistre des gains plus intéressants, quelques 3,5 millions de francs par an en chiffre brut. D'ailleurs, à noter que soit dans la Tribune de Genève, soit dans le Matin, les annonces pour le 156 se trouvent dans la rubrique des sports. Bizarre, bizarre. La cause des femmes progresse à l'université à Genève. Un programme d'études femmes est en train d'être mis sur pied. Et on nomme des enseignantes à tous les niveaux. Annelise Head a été donc nommée aux affaires féminines de l'université et elle a envoyé au début de l'été un appel du pied à toutes les facultés. « Je souhaite répertorier, dit-elle, leur offre en matière de cours, séminaires, recherches et colloques abordant la problématique des femmes sous divers angles, travail, politique, etc. » soit l'ébauche d'un futur programme études femmes. Les facultés ont joué le jeu. Le résultat de cette quête fait l'objet d'une publication sous forme de brochure. Comme prévu, les sciences de l'éducation, les lettres, les sciences économiques et sociales remportent la palme. Ce sont aussi les facultés les plus féminisées. Les études femmes seront en tout cas romandes. Des alliances sont donc prévues, entre autres avec Lausanne. De façon générale, la question des femmes évolue favorablement à Genève. Dans le corps enseignant, leur représentation est en hausse. Entre deux ans, on est passé de 4,8 à 5,9% de professeurs femmes ordinaires. Selon la déléguée aux questions féminines, cette progression doit être reliée à la mise sur pied de la nouvelle loi sur l'université qui, je vous le rappelle, impose un quota. Certains domaines sont à la traîne. Souvent, le manque de volonté n'est pas en cause, mais les thésardes se font désirer, surtout dans des secteurs scientifiques tels que la physique. En sociologie, le problème est le même, en dépit d'une bonne proportion d'assistantes, presque 40%. C'est là que le bas blesse, dit Annelise Head-Koenig. Les assistantes sont plus nombreuses, mais elles ne font ou ne finissent pas leur thèse, d'où la difficulté d'assurer une relève professorale féminine. D'ailleurs, une idée pour faire gonfler la proportion des femmes, ce serait peut-être de comptabiliser les femmes de ménage. On atteindrait peut-être beaucoup plus facilement les quotas. Et finalement, les femmes ont été, en tout cas dans les départements de l'intérieur, présidés par Ruth Dreyfus, on a décidé d'exclure des statistiques les femmes de ménage qui sont donc exclues des quotas féminins. Ruth Dreyfus donc a fixé dans son département un quota de 43% de femmes pour son département de l'intérieur. Ce quota pourrait être difficile à atteindre, à moins de comptabiliser les 135 femmes de ménage du département. Une idée politiquement catastrophique, d'autant que Flavio Cotti, à son époque, avait interdit que l'on fasse monter les quotas féminins grâce au petit personnel. Donc Ruth Dreyfus a distribué des nouvelles directives visant à l'amélioration de la représentation et de la situation professionnelle du personnel féminin qui est devenu, cette amélioration est devenue le but prioritaire du département de l'Intérieur. La conseillère fédérale a insisté sur l'aspect qualitatif. Travail à domicile, réglementation concernant les garderies font entre autres partie des mesures à prendre dans ces offices. Ruth Dreyfus élève par ailleurs à 43% pour le long terme le quota de représentation féminine. Un nouveau défi après les 30% fixés par son prédécesseur Flavio Cotti, qui ont été d'ailleurs atteints en décembre 92, sans toutefois tenir compte des écoles polytechniques, bien sûr, où les hommes sont très nombreux. Pourquoi 43%? Parce que ça, en fait, recoupe la proportion des femmes actives dans l'ensemble de la population. Le chef du personnel du département de l'intérieur a eu comme idée que si le département veut être fidèle à cette réalité, il faudrait prendre en considération toutes les catégories de femmes qui y travaillent, y compris les femmes de ménage. Ce qui reviendrait à réintroduire dans les statistiques le service de nettoyage qui comprend 98% de femmes. Pouf, ça ferait immédiatement un boom. Mais c'était oublier l'aspect politique, une véritable bombe qui aurait permis d'accuser Ruud Dreyfus de gonfler les effectifs féminins de son département sur le dos des femmes de ménage. D'autant que, je vous le rappelle, Flavio Cotti avait interdit cela. Quelques jours plus tard, tous les chefs du personnel de la Confédération se seront réunis et Bizarre parle justement de l'idée de réintroduire le personnel de nettoyage dans les statistiques des départements. Ainsi, le chef de la division formation et perfectionnement de l'Office fédéral du personnel dit « Je peux dire que nous avons décidé, sur la proposition du chef du personnel de l'intérieur, de ne pas prendre en considération finalement les femmes de ménage, puisqu'elles représentent... 98% du personnel de nettoyage, c'est presque que des femmes. Nous allons donc unifier nos statistiques de base de calcul communes à tous les départements. Ouf, on respire. Nouvelle histoire de voile en France, dans le département de l'Ain, à Nantua, où les professeurs du Collège français de Nantua n'adhèrent pas que des élèves hors un foulard islamique. Nouvelle affaire donc autour de la laïcité de l'école. Une nouvelle affaire de foulard qui agite le collège à Nantua dans l'Ain. Quatre adolescentes arborent un foulard depuis la rentrée scolaire. Ce n'est pas d'ailleurs une première dans cet établissement, qui, dont un quart environ sont d'origine turque ou maghrébine. Deux des jeunes filles, des Marocaines, sont les sœurs d'une fille qui avait été renvoyée discrètement de l'école il y a 3 ans pour avoir d'ailleurs refusé de quitter son voile. Une majorité des enseignants a donc fait grève lundi et mardi, inquiets devant des signes religieux ostentatoires qui mettent en danger, disent-ils, la neutralité du lieu d'enseignement. Ils étaient 32 sur 46 à délibérer longuement sur ce problème pendant que les élèves déambulaient dans les couloirs. À l'origine de leur colère, un cours de gymnastique où la jeune Fatima de 11 ans est arrivée voilée. Le professeur a refusé sa présence, estimant que cette tenue n'était pas conforme aux exigences sportives. La majorité de ses collègues se sont solidarisés avec lui. Il s'appuie sur un arrêt ambigu du Conseil d'État qui déclare le port du foulard compatible avec la laïcité à condition qu'il ne devienne pas un signe de prosélytisme religieux. Au nom du même arrêt, le proviseur a tenté de ramener ses collègues à des positions plus souples et de dialoguer avec la communauté musulmane de la ville. Mais à Nantua, l'émergence d'une communauté turque est trop récente pour qu'il y ait pu trouver des contacts efficaces. Les cours ont repris normalement, sans qu'on sache comment les enseignants comptent poursuivre leur action dans ce collège, par ailleurs ouvert à la mixité religieuse. Le menu de la cantine y a été ainsi modifié pour tenir compte des élèves musulmans. En Suisse, un geste d'ouverture, le département fédéral de justice et police propose d'unifier les pratiques cantonales concernant les photopasseports et d'y autoriser le port du foulard, à condition que traits du visage et oreilles soient clairement reconnaissable. C'était les nouvelles sur Radio Pleine Lune 93.8 MHz. Et avant que Marjolaine vous raconte ses coups de cœur, quelques rendez-vous à vous signaler. Premièrement, le syndicat de la VPOD ou SSP propose un cours de sensibilisation au sexisme destiné à tous militants, militantes, mais je pense qu'il pourrait être ouvert à plus. Ça se passera le 25 et 26 octobre à Yverdon-les-Bains. Ça s'appelle Bleu ou Rose, un choix pour la vie, sensibilisation au sexisme. Vous auriez dû vous inscrire bien avant, mais vous pouvez encore peut-être vous inscrire en téléphonant au 323 88 33, je répète, 323 88 33. Ce séminaire sera animé par Thérèse Moreau, écrivaine et enseignante, et Fabienne Blancune, secrétaire à la VPOD. D'autre part, je vous en ai déjà parlé, la Fédération suisse des femmes protestantes lance une pétition pour arrêter la violence. La Fédération genevoise des femmes protestantes organise une soirée débat sur le thème « Quatre générations sur deux épaules ». Ça veut dire que souvent, les femmes sont concernées en s'occupant, à s'occuper de tout le monde, des vieux, de leurs... comment on dit, ceux qui ont le même âge, disons, de leurs compagnons ou maris et des enfants. Donc, ça fait parfois même des petits-enfants. Ça fait beaucoup. Et donc, c'est un échange débat avec Jacqueline Bursi, qui est infirmière-chef, Marie-Yvonne Gonialon, docteur en psychosociologie, Monique Imbert, directrice de Procénectute. Vous pouvez vous renseigner en téléphonant au 755 45 46. Ça se passe le jeudi 21 octobre à 8h au restaurant Les Miroirs à 7 rue des Grottes. Le comité Genevois pour une véritable assurance maladie a lancé également une campagne et se réunit le 19 octobre, c'est ce soir, à 20h30.
On est le 20.
Bon, ben c'est trop tard. Tant pis. Le Collège du Travail et la section et le syndicat La Marmite, qui est le syndicat des personnes actives au foyer à temps complet ou à temps partiel, organise une séance d'information sur l'évaluation monétaire du travail familial et domestique. Alors ça, justement, ça se passe le jeudi 21 octobre à 17h, salle 204, Centre des Unions Chrétiennes à l'avenue Sainte-Clotilde. Donc on expliquera comment on peut, une méthode pour évaluer le travail à la maison. Qu'est-ce que je peux encore vous raconter? Ah oui. Ça, c'est un rendez-vous plus tardif, mais il faut déjà y penser. En novembre, à l'annexe du musée d'ethnographie, il y aura une exposition sur le thème de l'exclusion. Ça s'appelle « La bulle de l'exclusion ». Ça aura lieu du 10 au 18 novembre, mais c'est une semaine de débat sur l'exclusion sociale. On y reviendra. Mais il y a une soirée qui est consacrée à Christiane Brunner, où vous devez vous inscrire. C'est le 16 novembre, qui est donc sur le thème « Encore exclues les femmes ». C'est le mensuel Femmes Suisses qui organise ce débat. Et donc, il y aura un échange avec Christiane Brunner. Il faut vous inscrire en téléphonant. En téléphonant au 346 01 25, excusez-moi, c'est pour le 16 novembre. 58, bon, j'ai plus de temps. Alors, c'est tout. Bonsoir, dans quelques instants, Marjolaine avec son memento.
Comme l'encre noire, comme le hasard, comme une lettre dans la mémoire. Derrière les lueurs, des petits matins gris. Derrière les lueurs, des petits matins de plus. Je cherche la comme une pierre polie, une plume se marie sur une feuille blanche nuit.